Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Le retour de votre week-end des experts sur RMC. Il est 8h08. Un bon dimanche. Merci d'être là. On salue aussi tous ceux qui écoutent ce rendez-vous auto en podcast dans la semaine, en replay, tranquillement, grâce à l'appli RMC. On est là jusqu'à 10h. Toutes vos questions auto, le 3216, l'appli RMC Direct Studio, hein, bien sûr. Ça ne marche que si vous êtes en direct avec nous. Hein. C'est pour ça que c'est un intérêt d'être, de se réveiller tôt le dimanche, hein, pour être en contact avec nous et pouvoir réagir au contenu de cette émission. 3216, l'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. On repart tout de suite avec vos questions, Jean-Luc.
Juste avant, tiens, François, ouais. On avait là sur la question de Jean-Pierre, là, sur son C4 Aircross, dont on remplaçait les injecteurs à tire-larigot. En fait, on a Hervé qui nous dit que c'est pas un problème d'encrassement sur ces injecteurs-là, c'est un problème électrique et un problème de faisceau.
Bon, d'accord.
Ce qui n'empêche pas que le problème va générer une panne de filtre à particules après. Peu importe que les injecteurs fonctionnent mal parce qu'ils sont encrassés ou parce qu'il y a un problème électrique, mais ils fonctionnent mal, donc ça va générer d'autres pannes derrière.
Ok, on a beaucoup de panne, tiens, ce matin, hein, c'est vrai. Et ça va continuer puisque Sébastien est avec nous au 32-16. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour François Sorel, bonjour Jean-Luc Moreau, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Donc voilà, j'ai une question en fait à vous poser. C'est que j'ai actuellement mon véhicule qui est au garage depuis maintenant 10 mois.
Dix mois
que mon véhicule en fait est en concession suite à un accident dont je suis non responsable. Et donc voilà, je vous écoute régulièrement. Je vous ai entendu la semaine passée avec l'histoire des pneus montés dans le mauvais sens. J'ai vécu la même chose. J'ai dit il faut que je vous appelle pour vous poser cette question.
Oui.
Alors comment faire? Quelle est la conduite à tenir? C'est vrai que là,
qu'est-ce qu'il y avait à réparer sur votre véhicule?
Mon véhicule en fait était choqué avant gauche, donc il y avait une expertise qui aurait dû être faite, mais suite au confinement, ça a mis un peu plus de temps. Oui. Donc février, mars, avril, j'ai eu au mois de mai donc la concession qui m'a dit tout simplement l'expert a des difficultés à vouloir prendre en compte l'accident. Pour lui, l'impact n'est pas conséquent, donc il n'y a pas lieu de faire de grosses réparations, alors que ça touche l'avant gauche de mon véhicule, donc l'endroit où il y a la transmission qui peut rentrer dans la boîte de vitesse. Donc il y aurait un sujet justement au niveau de la boîte de vitesse, peut-être demain à avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc ils m'ont changé une partie du train avant, mais à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, on me dit comme quoi mon véhicule accidenté, le berceau moteur, avait subi une réparation ultérieure. Et donc, de ce fait, on ne pouvait pas prendre en charge les réparations. Alors que ce véhicule est suivi par différentes concessions, hein, concessions spécialisées de la marque. Et là, j'ai donc différentes géométries qui ont été faites sur celui-ci, et avant l'accident. Et là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ben, il n'arrive pas à avoir une géométrie correcte pour que je puisse rouler avec récupérer mon véhicule. Donc, je ne sais pas comment faire. Alors, aujourd'hui, d'où ma question.
Il y a plusieurs choses. Votre voiture, vous l'aviez achetée d'occasion, donc, et vous l'avez achetée à un professionnel ou à un particulier?
À un professionnel.
Bon, le professionnel vous a indiqué qu'il y avait eu des grosses réparations sur le berceau moteur ou pas?
Non.
C'était quand cet achat?
Cet achat, donc en 2017, octobre 2017.
Parce qu'il y a plusieurs sujets dans votre cas, là. Le premier, c'est que le professionnel aurait dû vous dire que le véhicule avait été gravement accidenté. Voilà. En plus, a priori, la voiture a été mal réparée, puisque aujourd'hui, il y a des traces encore de cette réparation qui ne devrait pas y avoir. Donc ça, c'est un premier truc. Vous pouvez aller voir le vendeur de l'époque. Il n'a pas le droit, en tant que professionnel, d'ignorer les caractéristiques de la chose qu'il vous vend. En clair, il peut pas vous vendre une voiture avec un gros défaut comme ça sans le savoir. S'il le sait pas, bah c'est pour ses pieds, parce que c'est un professionnel, il doit être au courant. Donc ça, c'est le premier truc. Vous pourriez même demander la résolution de la vente, c'est-à-dire le remboursement de la valeur du véhicule au moment où vous l'avez acheté, peu importe combien de kilomètres vous avez fait derrière. Par contre, cette procédure-là, je pense que lui, il va, au moment où vous allez aller le voir, il va gentiment vous mettre dehors. Donc il faut y aller accompagné d'un avocat. Si pour, sur votre assurance, vous avez une protection juridique, je vous invite tout de suite à les contacter pour voir comment vous allez pouvoir faire pour vous faire aider. Ça, c'est le premier truc. Donc, y aller en lui disant, bon, bah, écoutez, mon véhicule a eu un problème depuis, ce problème a été réparé, mais on a découvert qu'il y avait un problème antérieur qui empêche aujourd'hui la voiture de rouler. Ce problème antérieur, il existait au moment où vous m'avez vendu le véhicule et vous ne me l'avez pas signalé. Donc, c'est un vice caché. Et un vice caché de la part d'un professionnel, ça peut l'obliger à vous rembourser la voiture.
Mais ça, c'est, ce qui me choque, ce qui me permet de vous interrompre, pour quelle raison, avant l'accident, j'avais une géométrie par différentes concessions, hein, correctes?
Parce que peut-être qu'il y avait une déformation, mais que cette déformation n'était pas suffisamment importante. Enfin, cette déformation n'empêchait pas de retrouver un réglage de train correct. Aujourd'hui, vous avez encore certainement une déformation supplémentaire au même endroit. Et même en ayant réparé les pièces qui ont été abîmées, vous n'arrivez pas à retrouver une géométrie correcte. C'est ça, sans doute.
Sans doute, mais là aussi, j'ai rencontré récemment donc la personne qui m'avait changé le volant moteur et qui avait fait descendre mon berceau pour accéder au volant moteur. J'avais un problème de butée d'embrayage. Il fallait automatiquement sur ce style de véhicule descendre la boîte de
à vitesse ouais.
pour changer en fait cette butée d'embrayage. Mmh. Et là, il m'a conseillé même de changer le volant moteur, quitte à le changer avec le nombre de kilomètres qu'il avait, autant le changer. Donc, il m'a expliqué qu'il avait enlevé ce berceau. Et quand je lui ai montré les photos, à aucun moment il avait vu en fait ce berceau dans
déformé.
L'état où il est là actuellement.
D'accord. Ouais, oui, donc la vraie question, c'est vous pouvez faire vous-même une expertise.
Hein. C'est ce que j'ai demandé, oui.
Ouais.
Merci, c'est ce que j'ai demandé, mais là quand même ça dure quoi. Dis-moi, je veux dire les premiers courriers que j'ai reçus datent de septembre.
Ouais. Donc, alors, vous pouvez faire déjà, c'est vous pouvez adresser une lettre recommandée au garage où est votre véhicule, lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle vous le mettez en demeure de vous rendre la voiture dans un délai strict. Alors, délai strict, vous dites par exemple, dans un mois, il faut que vous m'ayez rendu le véhicule, faute de quoi, derrière, il y aura un préjudice. Il y a un préjudice occasionné par l'absence de votre véhicule. Il faut que vous puissiez avoir votre voiture. Donc, ça sera à lui, s'il ne vous rend pas votre véhicule en temps et en heure, une fois qu'il aura eu ce recommandé, ça sera à lui de payer les dommages et intérêts, par exemple, de location d'un autre véhicule pour remplacer celui-là.
Voilà, parce que lui, ce concessionnaire, m'a déjà envoyé un devis du berceau en question. Et ce devis du berceau, il le note en plus sur ce devis, que c'est pas même en changeant le berceau que les résultats seront concluants pour que le véhicule soit... Alors c'est ça aussi, ça me met en fait en doute sur le principe, ou même en changeant ce berceau, les résultats soient conformes. Alors je ne sais plus du tout, c'est-à-dire que si je fais les choses de mon côté, je l'entends, je le suis, on change le berceau, et bien demain en fait, c'est vrai, comme je lui ai dit, il y a quand même eu un choc là, et si la boîte de vitesse demain, elle lâche, il me l'avait bien dit en plus en suspens, c'est qu'il y avait quand même eu un choc sur le côté de la jambe, enfin sur tout le côté, donc il y a quand même un risque demain d'avoir, il faudra mettre quand même des réserves lorsque vous récupérez votre véhicule. Voilà ce que m'avait dit la concession.
Vous pouvez faire une expertise contradictoire. Hein. Prenez un expert. Hein. Voyez avec votre assureur déjà, parce que là vous êtes quand même dans une situation où vous allez avoir besoin d'un appui juridique. Voyez avec votre assureur et prenez un expert pour arriver à déterminer qui est responsable de quoi dans cette affaire. Parce que c'est ça le vrai problème. Est-ce que c'est le dernier accident? Est-ce que c'est le vendeur au départ qui vous a caché un truc? Ça, il n'y a qu'une expertise approfondie qui pourra vous le dire.
Merci Sébastien. Allez, 8h15 sur RMC. Avant de retrouver la météo, on va découvrir maintenant les 20 premières voitures de l'année, Jean-Luc. Mais attention, pas de cette année. Hein. On va remonter dans le temps et s'intéresser au milieu des années 60, jusqu'au milieu des années 80.
1964, création de la voiture de l'année. Alors, on n'a pas fabriqué la voiture de l'année, mais l'élection de la voiture de l'année.
Ça a commencé en 64.
1964, voilà.
D'accord.
Alors avec nous, on a pour en parler Olivier Bernis, qui est le rédacteur en chef d'Auto Plus Classique. Et Auto Plus Classique, qui à partir du 3 décembre, dans son numéro donc du mois de décembre, va nous proposer un gros dossier qui fait combien de pages?
Bonjour Olivier.
Bonjour à tous les deux, il fait 22 pages.
22 pages, ouais, vous êtes intéressé donc à ces voitures qui étaient des stars, enfin qui ont été des stars de l'élection de la voiture de l'année. Alors stars ou pas dans la réalité, on va le voir un petit peu dans le détail, parce qu'il y a un peu... Je serais tenté de dire tout et n'importe quoi. Déjà, quelle a été la première voiture de l'année, historiquement parlant?
Alors, la première voiture de l'année, c'était une Rover. Donc, la Rover 2000, également appelée P6. Donc, il n'y a pas eu beaucoup ensuite des Rover ou des Austin, mais c'est la première élue par ce jury européen.
Ouais, moi j'aimais bien la version juste après qui est sortie avec le V8 Rover là, qui avait en fait la roue de secours sur le oui, capot arrière, sur la malle arrière. Je trouvais ça. Quand j'étais petit, j'adorais cette voiture. C'est marrant, hein.
Oui, elle était belle, mais bon, les critères d'élection peuvent parfois surprendre. Hein,
Ouais, on va voir ça. C'est vrai qu'il y a des voitures qui ont été élues. On se demande pourquoi. Alors, la première française, c'était laquelle à avoir reçu le titre de voiture de l'année?
Alors, la première française élue voiture de l'année, c'est la Renault 16 en 1966. Enfin, la voiture est sortie en 65, mais comme dans les règles, il faut que la voiture ait quelques mois de commercialisation et un nombre d'exemplaires. Et donc, elle est élue voiture de l'année suivante, enfin, qui suit son lancement, en définitive.
Ah, c'était une voiture étonnamment moderne, la Renault 16, quand on réfléchit aujourd'hui.
Je me souviens pas trop de son look. Ah, bah oui, d'accord. Bah, alors maintenant, Jean-Luc me la montre. C'est vrai que c'est quand même une voiture emblématique des années 60. Quoi.
Exactement. En fait, c'était pas la première à avoir un haillon, parce que c'était la 4L, mais c'était la première familiale avec un haillon.
Et elle a été commercialisée jusqu'à quand, cette voiture?
Jusqu'en 1980, elle a eu une carrière de 15 ans. Ça se terminait avec les versions, vous savez, à phare carré, les TX.
Ouais, les TX, je me souviens de la pub à la télé quand j'étais gamin, une voiture de président. Et en fait, il y avait les vitres électriques. C'était carrément, c'était révolutionnaire.
Les vitres électriques,
c'était la révolution à l'époque.
Ouais, il y avait plein de trucs et ils avaient fait une pub en disant voilà, cette voiture une voiture de président. Bon, je sais pas si le président a roulé avec. Bon, il y a eu des trucs un peu plus exotiques. Hein. En 1968. Il y a une voiture très étrange, enfin très étrange, pas esthétiquement, mais mécaniquement, qui a été élue. Alors on se demande un peu pourquoi, parce que ça n'a pas marché du tout en revanche.
Non, c'est la fameuse MSU RO 80, avec une innovation technique qui avait séduit le jury, le moteur rotatif. C'est un brevet qui avait été posé par un ingénieur allemand qui s'appelait Wankel et qu'on a retrouvé ensuite sur quelques marques. Hein, Mazda également tenté sa chance, Citroën, Mercedes. Et en fait, elle avait des problèmes de fiabilité, une boîte 3 vitesses qui n'était pas exemplaire non plus et ça a été un flop commercial et ça a même signé l'arrêt de mort de la marque NSU.
Ouais. Alors, ce qui est étonnant, hein, d'ailleurs, c'est que on a l'impression que le jury de la voiture de l'année parfois est lucide et parfois fait n'importe quoi. Parce que bon, la NSU RO 80, ils ont pris le risque de récompenser une technologie innovante, d'accord. Mais des fois, il y a des voitures, on se demande comment elles ont pu être élues. La Renault 9, par exemple, c'est hallucinant. C'est la voiture moche et banale par excellence.
Oui, exactement. Et pourtant, elle s'est vendue. Elle s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires. Mais à l'époque, objectivement, il n'y avait pas de raison d'élire cette voiture. Elle n'avait rien pour elle.
Et donc, même avec le recul, on lui trouve toujours rien. Parce que des fois, avec le recul, on se dit oui, il y avait ça. Mais là, rien du tout, là.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas des raisons aussi autres que vraiment la qualité de la voiture à l'époque?
Par exemple, Fiat qui a eu 9 titres quand même.
C'est ce qu'il se disait, effectivement. On est quand même surpris quand on liste le nombre de voitures élues voitures de l'année de découvrir qu'il y a eu 9 Fiat. Et parmi ces Fiat, certaines n'ont pas marqué les esprits, franchement. Il y avait eu tout un débat en 1984, par exemple, sur l'élection de la Uno à la place de la 205. La 205, c'est la voiture qui a sauvé Peugeot, qui était quand même marquante à sa sortie, et elle s'est fait damer le pion
par la Uno. Voilà. Oui, ouais. Pas,
Et tous les journalistes du jury roulaient en Fiat Uno, non?
C'est un peu ce qu'il se disait à l'époque.
Il y avait des soutes de dessous de table.
Non, mais c'est ça. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des trucs bizarres. Par exemple, BMW a jamais eu le titre de voiture de l'année. Ça paraît complètement fou. Oui, que BMW, c'est quand même une marque qui a sorti des produits.
En 40 ou 50 ans, ils auraient dû quand même.
Ouais. Ouais, et puis, les grands loupés, on a dit la 205 là, mais la Renault 5 n'a pas été élue voiture de l'année non plus.
Non. La Golf non plus. La Golf, c'est un monument. Pas élu. La R5, effectivement, en 72, pas élu non plus.
Après, Olivier, excusez-moi, mais on est un peu déçus. Où est la Fuego dans tout ça?
Elle n'a pas été élu non plus.
Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas eu de dessous de table concernant la Fuego?
Et non, apparemment, ils n'ont pas mobilisé les foules.
Ouais. Ou ils n'ont pas payé assez cher, ça doit être ça. Mais en revanche, bon, alors, on va dire qu'il y a un lointain, une très lointaine ressemblance. Il y a un véhicule qui de très loin, hein, partant de brouillard la nuit, qui ressemble un petit peu à la Fuego, et qui est aussi bizarre dans le palmarès de la voiture de l'année, c'est la Porsche 928 quand même. Là, ils ont pris la foudre cette année-là, le jury, non ?
Ah oui, ce n'est arrivé qu'une fois. Hein. Donc, c'est en 1978, élire un coupé GT avec un moteur V8 en pleine crise pétrolière, hein, puisqu'on est entre les deux chocs, au moment où la France n'arrêtait pas de parler de chasse anti-gaspi, c'était quand même pour le moins surprenant.
Oui, et puis pas très populaire en termes de tarifs non plus, hein, quand même.
Ah, non, évidemment, ni en termes de tarifs, ni en termes de motorisation. Hein. Vous aviez un moteur V8 de 240 chevaux, on fait plus populaire que ce type de motorisation, c'est sûr. Mais ils ont voulu saluer l'audace technique. On parlait d'un fameux train arrière à braquage induit. Et donc ça a beaucoup plu au jury, et bon, ce n'est arrivé qu'une fois.
Ouais. Vous, à titre perso, dans les 20 qui sont là dans Auto Plus Classique le mois prochain, vous préférez laquelle ?
Alors moi, j'aime beaucoup la Renault 16, on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai un faible pour cette voiture.
Mais c'est les vitres électriques de la Renault 16.
Ouais, non,
les
non, mais je comprends. Les premières versions, l'élection n'avait pas les vitres électriques.
Ouais, il y avait même un tableau de bord matelassé.
C'était l'ancêtre de l'airbag, finalement.
Impuissant.
On tapait la tête dessus, on avait moins mal.
Non, mais c'est une voiture très en avance sur son temps, et qui un concept entre la berline et le break, et franchement, c'est une voiture qui mérite notre intérêt. Elle était intéressante, au même titre que la 504, dans un registre différent, mais la 504, en 69, était une voiture très intéressante, et elle a fait l'unanimité du jury.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci, Olivier. Donc, à retrouver dans Auto Plus Classique à partir du 3 décembre.
C'est ça. Merci à vous.
Au revoir.
Excellente journée.
Ah là là, les vitres électriques sur la Renault 16, ça devait être quelque chose quand même. Hein.
Imaginez, et pas que ça, il y avait plein de trucs. Ah,
attendez, dans feu rouge, vous arriviez comme ça, là, le voisin, il devait vous regarder, il devait être mort de jalousie. Ça devait mettre trois quarts d'heure en plus pour que la vitre descende à l'époque, parce que ça devait faire un bruit pas possible et tout, mais c'était génial, franchement. Non, mais les vitres électriques sur les voitures, c'est... Non ?
Si, oui, non, oui, ça a été un vrai progrès. On le voit aujourd'hui quand vous prenez une voiture avec une manivelle. Vous arrivez au péage et chopez la manivelle pour descendre la glace, au secours.
Allez,
alors, il y avait quand même des vitres électriques ultra rapides à l'époque. Mercedes avait, sur certains de ses modèles haut de gamme, des systèmes pneumatiques. Vous descendiez la vitre en 2 secondes.
En 2 secondes. Waouh. Très bien. Mais on remontait jamais la vitre après, non ?
Si, pareil, en 2 secondes.
Quand même.
Ouais, ça pouvait vous couper la tête ou les doigts, d'ailleurs.
Eh bien, dites-moi. Allez, 8h25 sur RMC. On revient dans un instant et nous aurons Eric au 32-16. Est-ce qu'on peut prendre une voie rapide, Jean-Luc, avec un véhicule diesel à froid ?
Et à contresens.
Alors, à contresens.
Et les yeux fermés.
Et les yeux fermés, c'est ça, bien évidemment. Allez, on revient dans un instant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est votre auto. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
8h31, on est de retour. Un bon dimanche avec nous, bien sûr. C'est votre auto jusqu'à 10h. Avec notre spécialiste Jean-Luc Moreau qui est là. Et on attend bien sûr vos questions. Et vous le savez, c'est la particularité de ce rendez-vous, vos questions auto en direct. N'hésitez pas, Direct Studio au 32-16. Et on accueille Eric qui est là. Bonjour Eric.
Bonjour François, bonjour Docteur Moreau.
Ah oui, c'est Docteur Moreau qui n'est pas sur son île, hein, d'ailleurs, en ce dimanche, rappelons-le. Oui, écoutez, voilà, c'était une petite référence cinématographique légère. Tout va bien Eric ?
Oui, ça va.
Vous nous appelez d'où ? Attendez, petite introduction quand même. Vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de la Haute-Garonne, de Toulouse.
Parfait. Il fait très froid à Toulouse ce matin. Tout à l'heure, nous avions
Il fait moins 1 degré.
Ah, tout à l'heure, on était à 0, là, on est à moins 1.
Oui.
Et on vous écoute, Jean-Luc vous écoute.
Ma question, docteur Moreau, c'est ce matin, en partant de chez moi, donc je retrouve le givre sur le véhicule. Vu que je devais partir rapidement, je prends une bouteille d'eau, je précise, froide, que je renverse sur le pare-brise.
Ouais.
Et sans attendre que le moteur y chauffe, je suis quoi, 2 minutes de la voie rapide, donc j'y vais. Et de suite, je me dis, tiens, je vais quand même poser la question au docteur pour savoir si le cœur de mon véhicule diesel peut supporter, vu qu'on va rentrer dans la période
froide,
automnale et hivernale, ce genre de traitement, en fait, au quotidien.
dire.
Alors, déjà, pour tout le monde, là, le fait de démarrer sa voiture et de la laisser chauffer, c'est une hérésie totale. Hein. Il vaut mieux démarrer, rouler tout de suite. En revanche, ce qui me déplaît dans ce que vous m'avez expliqué, c'est que vous avez la voie rapide à 2 minutes et qu'au bout de 2 minutes, vous roulez à 110 km/h. Non, franchement, oui. Si vous voulez préserver la santé de votre moteur, laissez-le chauffer gentiment, prenez le début de l'autoroute à 80-90 et puis montez graduellement jusqu'à 110, mais passez pas avec le moteur complètement froid de 0 à 110 km/h. C'est franc. Là, vous savez, l'usure d'un moteur, en fait, 98% de l'usure se fait à froid sur un moteur. Donc si vous tirez dedans à froid, vous allez l'user prématurément. Donc allez-y gentiment, vous rentrez sur l'autoroute et... Alors, je vous dis ça quand c'est l'hiver et qu'il fait très froid, mais l'été, c'est la même chose. Hein. L'été, c'est la même chose. Parce que le différentiel de température, en fait, pour le moteur, votre moteur, l'huile va monter à une température d'environ 100 degrés, un petit peu plus de 100 degrés, la température d'eau aux alentours de 75 degrés. En fait, qu'il fasse 0 ou qu'il fasse 15 degrés, ça change pas grand-chose. Ça montera un petit peu plus lentement en température quand il fera froid, mais c'est la même chose. Tant que l'huile n'a pas atteint une bonne température, il ne faut pas tirer dans un moteur quel qu'il soit, hein, que ce soit un moteur diesel, un moteur essence. À partir du moment où un moteur à combustion interne, donc un moteur thermique, il faut le laisser chauffer pour le solliciter. Vous avez d'ailleurs des voitures sur lesquelles il est impossible, des voitures sportives allemandes, sur lesquelles il est impossible de réclamer de la puissance tant que le moteur n'est pas chaud.
Bon, quand je dis 110, c'est bon.
Mais 110, ça commence à être beaucoup. Allez-y, franchement, plus progressivement. Mettez-vous à 90, même un petit peu moins. Allez-y gentiment, quoi. Vous démarrez, vous faites 1 ou 2 kilomètres en étant à 80, et puis ensuite vous accélérez progressivement. Mais rentrez pas en ayant démarré sur l'autoroute et prendre 110 tout de suite. Si vous voulez que votre voiture dure longtemps, je sais pas si vous voulez la garder, mais vous avez intérêt à faire ça.
D'accord. On peut, en termes de timing, en fait, on va se dire le laisser rouler quoi 5-10 minutes à peu près, le temps de,
de
lui demander,
ouais,
en fait.
Exactement. Le temps de laisser. Alors bon, l'eau monte en température plus rapidement, mais c'est surtout l'huile. C'est surtout l'huile qui est importante à faire chauffer. Voilà.
D'accord. Ok, ben je vous remercie pour vos réponses qui sont toujours aussi pertinentes.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Eric.
Merci Eric.
Merci, au revoir.
Et si, tout comme Eric, vous voulez joindre Jean-Luc, le 3216, l'appli RMC, Direct Studio.
Et puis, on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent que Jérémy a dû beaucoup picoler avant d'arriver ce matin en studio, puisque la 4L n'a pas de vitres qui descendent. Hein, elle n'a pas de manivelle. La 4L, c'est des vitres qui coulissent.
Même à l'avant?
Oui.
Ah ouais.
Oui, principalement à l'avant d'ailleurs.
Donc Jérémy.
Jérémy avait beaucoup bu. Ouais.
Ou alors peut-être qu'il avait confondu. C'était pas une 4S, c'était peut-être.
Ah, c'est peut-être autre chose.
Une R5.
Oui, c'est peut-être une R5.
Voilà.
Effectivement,
on lui posera la question tout à l'heure. Là, il est dans vous savez, il est dans les anticyclones et tout ça. Ouais. Là, il est en train de checker. On verra dans quelques instants.
Ah, attendez, ça y est, Jérémy, attention, voilà Jérémy.
Vous savez qu'RMC, c'est la radio du breaking news avant tout. C'est-à-dire que l'information prime, hein, c'est ça.
On avait une 4L, mais on avait aussi une Super 5.
Ah, c'est ça, c'est donc la Super 5. Et voilà. Vous savez, le mystère est éclairci. Vous pouvez vous rendormir tranquille.
Voilà. Je pense que là, certains auditeurs étaient en syncope, mais ça va beaucoup mieux puisque nous avons enfin cette information. Aline est avec nous au 3216. Bonjour Aline.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour François.
Bonjour Aline.
Vous êtes dans le Morbihan, Aline, c'est ça?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et on vous écoute. Parlez-nous de votre Tourane.
Oui, alors donc j'ai fait réaliser donc un entretien classique pour mon Tourane, c'est-à-dire la vidange de mon véhicule. Mon véhicule fonctionnait très bien avant que je laisse mon véhicule à ce garagiste. Cette vidange, 8 jours après, mon véhicule n'avançait plus.
D'accord.
Donc, je l'ai ramené via un dépanneur chez ce garagiste et il m'a indiqué, c'est l'embrayage, il y a le joint de culasse et la courroie de distribution a changé.
attendez, il y avait tout ça en même temps, il y avait l'embrayage.
Alors, c'est ce qu'il m'a dit oralement, alors j'ai pas eu de devis. Il me dit, votre véhicule fonctionnait très bien quand vous l'avez sorti. J'ai fait à peu près 70 km après la vidange qui a été réalisée par ce garagiste. Et quand j'ai eu ces problèmes où mon véhicule n'avançait plus, quand ils ont repris pour constater le problème, j'ai eu un appel téléphonique qui m'ont dit, écoutez, Il y a beaucoup de travaux à faire sur votre voiture. Il y a certainement le choix de culasse, comme je vous ai dit, l'embrayage et la courroie de distribution. Et ils m'ont dit, oui, puis en plus, sur votre moteur, il y a des traces, d'huile stagnante qui doivent dater depuis plusieurs années, etc.
Attendez. Vous leur emmenez la voiture pour un entretien, et quand ils font l'entretien, ils se rendent compte de rien.
Tout à fait.
Un garagiste, il a d'abord un devoir de conseil. Le premier devoir qu'il a, c'est de sécurité. Il ne peut pas vous laisser repartir avec une voiture qui est dangereuse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il a un devoir de conseil. C'est à lui de vous dire, vous m'avez donné votre véhicule pour faire une révision. On a fait la vidange, mais attention, on a vu qu'il y avait de multiples fuites d'huile dans le compartiment moteur. On s'est rendu compte que votre embrayage, il patinait, il est peut-être en fin de vie. Il aurait dû vous mettre ça sur la facture, il aurait dû vous mettre en remarque qu'il y aurait des travaux à faire sur le véhicule. Maintenant, après, le joint de culasse, alors là, que le joint de culasse lâche 70 km après avoir fait la vidange, c'est quand même étrange. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui n'a pas été fait correctement quand ils ont fait la vidange, qui a provoqué une surchauffe du moteur ? Il va falloir sans doute faire une expertise de votre véhicule pour arriver à déterminer si c'est la responsabilité du garagiste. Parce que une panne qui survient juste en sortant la voiture du garage, la première chose qu'on imagine, c'est que ça va être la responsabilité du garagiste. Et c'est à lui de démontrer en plus que la panne n'est pas liée à l'intervention qu'il a fait sur votre véhicule. Mais il faudra quand même vous faire aider par un juriste, au moins dans vos démarches. Parce que je pense, qu'est-ce qu'il vous dit, lui ?
Donc, ils attestent comme quoi il y a eu un défaut de conseil, hein, ça c'est clair. Et puis, surtout, leur position, donc maintenant, ils vont, après des échanges, donc ils ont fait un devis seulement pour l'embrayage.
D'accord, et le joint de culasse, que la principale panne, c'est quand même le joint de culasse.
Alors non, c'était simplement une supposition.
Ah, une supposition.
Ils sont revenus sur leur dire, après ils me disent... C'est une supposition. Donc maintenant, on suppose que c'est l'embrayage. J'ai un bon.
Attendez, ils hésitent. Sur une panne, ils hésitent entre l'embrayage et le joint de culasse. C'est pas tout à fait pareil, quand même. Hein.
Ben oui. Enfin, moi, je suis pas professionnelle. Donc
non, mais ça n'a rien à voir. Un joint de culasse, qu'est-ce que c'est ? Le joint de culasse, il est entre le moteur et la culasse, et en général, quand il lâche, c'est qu'il y a une surchauffe du moteur. À ce moment-là, il y a de l'huile qui passe dans l'eau ou de l'eau qui passe dans l'huile. Enfin bon, bref, on se retrouve avec un moteur qui marche mal, qui risque de casser, et donc il faut remplacer le joint de culasse. C'est pas en elle-même, l'opération est pas très compliquée. C'est la main d'œuvre qui est compliquée parce qu'il faut tout démonter. Voilà, puis il faut faire resurfacer la culasse en général quand on la remonte sur le moteur. Il faut l'éprouver pour savoir s'il n'y a pas des fissures dans la culasse. Bon, bref, c'est une opération qui, en termes de main-d'œuvre, coûte assez cher. Mais ça n'a rien à voir avec un embrayage qui, lui, est fait pour marier le moteur et la boîte de vitesse. L'embrayage, c'est ça.
Aline, merci. Jean-Luc, il est 9h20. On revient dans un instant.
Quand même extrêmement bizarre. Hein.
Ouais.
C'est comme si vous alliez voir un médecin et qu'il vous dise oh là là,
j'hésite,
soit une tumeur cérébrale ou soit un problème à la jambe.
Bon, d'accord. Vous savez quoi, je reviens. Je vais aller en voir un autre. On revient dans un instant. Jean-Luc, l'essai de la semaine, ce sera la Ford Puma hybride. Et on aura le temps aussi pour retrouver quelques-unes de vos questions d'ici 9h. Donc n'hésitez pas pour retrouver l'expertise de Jean-Luc Moreau. 32-16, l'appli RMC, direct studio. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto. François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Moins le quart, le retour de ce week-end des experts, l'automobile. Jean-Luc, évidemment, on est là jusqu'à 10h. Tout à l'heure, entre 9 et 10, on découvrira ce premier système de désinfection flash des voitures par ultraviolet.
Ouais.
Donc là, on se retrouve avec une voiture qui est totalement désinfectée.
Ouais.
Et ça va très très vite en plus.
Ça va super vite.
Et oui, parce que les ultraviolets crament le virus.
Oui, mais vous pouvez également avec. Alors, c'est encore moins cher que le système ultraviolet. Vous prenez 2 litres d'essence que vous répandez dans la voiture, vous craquez une allumette.
Mais après, le design intérieur du véhicule est un peu différent.
Après, c'est plus compliqué d'utiliser, mais la désinfection est totale et définitive.
Oui, c'est vrai. Vous devriez essayer.
En plus, la Fuego s'y prête bien. Elle a déjà le nom qui va avec.
Ouais. Et puis, ça nous permettrait de faire une petite côte de bœuf aussi. Et puis, de nous réchauffer. Il fait moins 1 à Toulouse. Vous vous rendez compte?
Ouais, vous n'avez plus besoin de faire chauffer le moteur après pour démarrer.
L'essai de la semaine, Jean-Luc, redevenons sérieux, s'il vous plaît. Ce sera dans quelques instants le Ford Puma hybride que vous avez testé pour nous. Kevin, ça sera dans un instant, parce que je vois qu'il envoie le petit générique de l'essai. Ça sera juste après Jean-Pierre qui est là. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour messieurs. Morel Moreau.
Bon, enfin moi c'est Sorel, mais vous savez quoi Jean-Pierre ? C'est pas grave. Morel, bon. Sorel, c'est kiff. Moi-même, bon. Moi, parfois je me trompe.
Bon, d'accord.
Tout va bien ?
Oui, non, mais c'est pas le but de mon appel, c'est je vous dis tout de suite le but de mon appel.
Allez-y.
Je veux acheter un monospace type, mais alors quand j'essaie de regarder, je suis complètement paumé. Je veux un monospace essence avec boîte automatique, mais alors entre le Charan, le C4, Grand Picasso, le machin, moi je suis paumé complètement.
Alors attendez, on va quand même vous poser quelques petites questions.
Alors vous voulez alors essence, on a compris, monospace, vous voulez 7 places, 5 places, 5, une place.
5, ça me suffit. Mais c'est essence, boîte automatique, 5 places, voilà.
D'accord. Vous faites beaucoup de kilomètres, Jean-Pierre ?
Non, là, actuellement, je suis entre 10 et 15 000, parce que j'ai une moto et un camping-car aussi, alors...
Vous êtes bien équipé, dites donc, Jean-Pierre.
Oui, ça va.
Ah oui.
Vous voulez d'occasion ou neuf ?
Ah, d'occasion. Ah oui, le budget, c'est 15 000, quoi.
Ah ouais, ça va déjà être un truc qui a quand même pas mal de bornes à 15 000. Alors le vrai gros souci que vous allez avoir avec 15 000 euros pour trouver un monospace d'occasion, c'est d'en trouver un à essence. Parce que ceux qui correspondent à l'année du modèle que vous pourriez avoir pour un budget comme ça, ils sont essentiellement en diesel. Donc vous allez avoir du mal à trouver un moteur essence, qui plus est, avec une boîte automatique. Donc vous pouvez toujours essayer de chercher effectivement un C4 Picasso. Mais bon, je vous garantis pas que vous allez...
Non mais si vous voulez, ma question c'est entre les boîtes de DSG7, les EAT6, là je comprends que dalle.
Alors je vous explique tout. Quand vous prenez une DSG ou une DCT chez Renault... C'est une boîte.
DSG, c'est Volkswagen.
Ou DCT chez Renault, c'est une boîte mécanique avec un embrayage piloté. Et en l'occurrence, c'est deux embrayages. C'est une boîte double embrayage piloté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez pas de pédale d'embrayage. C'est un robot qui passe les vitesses à votre place. Bon, il est assis à la place passager. Ça fait une personne en moins qui peut monter dans la voiture.
Ça fait un ami supplémentaire.
Non, en fait, c'est automatique. C'est sur la boîte. Oui. C'est un système avec des actionneurs électriques qui va passer les vitesses à votre place. Donc, vous ne passez pas de vitesse. C'est pas une vraie boîte automatique, mais son fonctionnement est automatique. Quand vous achetez une EAT6, ça, vous avez ça chez PSA. C'est une boîte japonaise, d'ailleurs. C'est Eisin qui fait les boîtes pour PSA. Là, c'est une vraie boîte automatique avec ce qu'on appelle un convertisseur de couple. Le fonctionnement, pour vous, vous en fichez, parce que les deux types de boîtes, ça fonctionne pareil. Vous n'avez pas de vitesse à passer. Le truc, c'est que la boîte robotisée est un petit peu plus rapide dans les passages de vitesse. Et à l'inverse, la boîte automatique avec convertisseur va être un petit peu plus confortable dans l'utilisation. Voilà, c'est ça les différences.
Et dites-moi, il n'y a pas ce fameux effet mobilette dont vous parlez?
Non, pas du tout. C'est des boîtes. Il y a vraiment un verrouillage sur des rapports. Donc c'est pas de la variation continue.
On peut éventuellement descendre les rapports.
Oui, vous pouvez mettre en manuel et passer les vitesses si vous voulez, mais exactement. Vous allez le faire une fois, deux fois, puis après ça vous amusera plus. Vous laisserez en automatique comme tout le monde.
Mais c'est-à-dire que j'ai mon camping-car, c'est un Mercedes, il a une boîte auto comme ça. Je suis bien content d'avoir.
Ah oui, dans les descentes, mais parce qu'il est lourd votre camping-car sans doute.
Ah oui, mais comme tous les camping-cars.
Ah bah oui.
Donc je suis bien content quand j'arrive dans les ronds-points de ne pas avoir utilisé le frein.
Ah oui.
Oui, mais...
Bon.
Non, mais là,
alors,
vous...
me dites, au point de vue fiabilité...
Au point de vue fiabilité, vaut mieux une boîte Eisin, là, EAT6. Hein.
Ah oui, d'accord.
En plus, vous allez tracter des trucs avec votre voiture ou pas ?
Non.
Bon.
Non.
Ouais, vous mettez tout dans le camping-car.
La remorque de la moto de temps en temps, mais ma moto, elle pèse 250 kg, 280 kg, c'est pas le poids.
Voilà. Bon, alors après, hein, comme je vous disais, ça va être une chasse au trésor parce qu'il faut trouver le modèle essence à 15 000 euros avec la boîte automatique et ça, vous allez, je pense, y passer un petit moment.
C'est-à-dire que non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui recherchent ce type de véhicule.
Alors vous avez ou du Scénic ou du Peugeot 3008, enfin quoi, le 3008, vous n'aurez pas le nouveau, vous aurez l'ancien et qui n'est pas vraiment un monospace, qui est plus SUV, mais donc vous avez le Citroën C4 Picasso 2 ou vous avez. Un Renault Espace. Non, pourquoi je vous dis un Renault Espace ? Un Renault Scénic. Quoique, peut-être même un Espace plus ancien. Oui. Et ça, je vous déconseille.
À 15 000.
Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de place, en plus, si vous n'avez pas besoin de cette place, ce n'est pas la peine.
Jean-Luc, merci en tout cas, Jean-Pierre, pour votre appel. On retrouvera beaucoup de questions tout à l'heure entre 9h et 10h. Hein, donc, n'hésitez pas à nous appeler. 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et dans l'immédiat, c'est l'essai de la semaine, Jean-Luc. Et c'est la Ford Puma hybride que vous avez testée pour nous.
Oui, avec le moteur 1 litre EcoBoost, donc essence, 3 cylindres EcoBoost en version 155 chevaux, parce que je vous expliquerai plus loin qu'il y a plusieurs puissances qui sont disponibles sur ce véhicule. C'est un SUV compact qui est parmi les plus compacts d'ailleurs de la catégorie. Il fait 4,18 m de long. C'est un concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008. Alors, par comparaison, un Peugeot 2008 nouvelle génération, ça fait 4,30 m de long, donc il est effectivement un peu plus compact. Il sera plus à l'aise en agglomération. Il est plutôt sexy. Il est même joli, je vais dire. Hein, il a un profil de quasi SUV coupé, une bonne bouille de devant, de derrière, de sur le côté. C'est vraiment une réussite. Ouais, c'est une réussite au niveau esthétique. C'est une plateforme de Fiesta avec des voies élargies de 5,8 cm. À l'intérieur, bon, on sent qu'il y a de la Fiesta. Ça ne veut pas dire que vous allez faire la bamboula dans la voiture. Hein, non, mais il reprend par exemple la planche de bord de sa petite sœur. Cette dernière, elle est habillée en partie haute de plastique souple. Elle intègre un écran central tactile de 8 pouces qui est plutôt pas trop mal placé. Pour une Ford, on va dire que... on trouve bien toutes les commandes. Il y en a un peu trop sur le volant quand même. Ils ont toujours un peu trop. Ça, c'est parce que c'est encore la jeunesse de Ford. C'est des boutons un petit peu partout, c'est ça, vous savez, comme vous quand vous étiez jeune. Enfin bon, bref. C'est sérieux.
Enfin, comme je suis vieux maintenant, j'ai plus de boutons.
Oui, c'est vrai.
Pratique.
Vrai. Ouais. Bon, c'est sérieux à défaut d'être fun, c'est le seul truc. C'est vrai que. Vu l'extérieur, franchement, qui est plutôt sexy, on s'attendait à l'intérieur de quelque chose plus dans l'esprit.
C'est vrai, vous avez raison, elle est plutôt jolie. Hein.
Ouais, elle est jolie, ouais. On s'attendait à quelque chose plus dans l'esprit d'un 2008 dedans, vous voyez. Mais bon, allez, on va dire, c'est quand même pas mal. Alors, grâce à l'empattement allongé de 6 cm par rapport à la Fiesta, il y a plus de place à l'arrière, mais, vous avez le profil fuyant du toit qui rend l'accès à bord pas très facile pour les personnes qui vont être au-dessus de 1m70, et puis aussi, il est un peu moins généreux que ses deux concurrents français en matière de place à l'arrière. Alors, le volume du coffre est plutôt appréciable. Il y a une belle astuce, ça s'appelle la Megabox. Qu'est-ce que c'est que la Megabox ? Ça permet pas de jouer en ligne, hein, la Megabox. Sous le plancher, vous avez...
Oui. La Megabox, la Lockbox, c'était votre blague, c'était ça, voilà.
Sous le plancher, vous avez une boîte qui vous aidera à planquer des trucs si vous passez la douane. Sur les derniers modèles, ça fait même 80 litres, donc on peut mettre pas mal de trucs. Et puis une bombe de vidange, donc vous pouvez même mettre des poissons rouges si vous voulez. Vous fermez la bombe de vidange, puis après vous liquidez les poissons rouges. Alors sous le capot. Donc c'est à l'avant cette fois, hein, sous le capot, 3 cylindres, 1 litre EcoBoost, un moteur qu'on connaît bien,
oui.
Qui est toujours aussi surprenant. Cette fois, il développe 155 chevaux pour un moteur 1 litre, 3 cylindres. Et en plus...
Sans l'électrique.
Et bénéficie en plus d'une hybridation light. Alors pourquoi light ? Parce que c'est un alterno-démarreur qui fait quand même 16 chevaux, hein, c'est pas négligeable, qui est alimenté par une batterie lithium-ion de 48 volts. C'est une grande tendance actuellement dans l'électrification, évidemment, pour diminuer les coûts et pour diminuer l'encombrement, puisque la batterie est plus petite qu'une batterie classique sur un full hybride.
Elle fait quelle capacité la batterie ?
La capacité est pas très importante. Je crois que ça doit faire 250 watt-heure. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. C'est pour récupérer en décélération et redonner tout de suite le boost. D'ailleurs,
c'est un peu le même concept que la Clio hybride?
Non, la Clio est un full hybride.
Est un full hybride.
Là, vous pouvez récupérer jusqu'à 50 Nm de couple sous 2000 tours minute. Bon, c'est un moteur qui est déjà très vivant à la base, mais en plus, là, aidé par l'alterno-démarreur, franchement.
Avec 16 chevaux de plus.
Ouais. Il est pétillant, il est plein, en fait. Il est plein dès 1300 tours minute. Il est pétillant ensuite au-dessus de 5000 tours. C'est vraiment agréable, sans de temps de réponse du turbo au bas régime. Et puis, cet alterno-démarreur, comme toujours, permet de couper, de redémarrer le moteur très vite. Alors, Le petit truc, c'est que moi, j'ai ressenti qu'il y avait des à-coups au passage des vitesses. Je ne sais pas si c'est lié à mon véhicule propre d'essai ou si c'est lié à la technologie d'alternodémarreur qui provoque au passage des vitesses, principalement en ville, un petit à-coup. C'est gênant. Il faudra que je vérifie ça auprès de Ford. Alors, c'est un système quand même assez performant qui, associé à la coupure du cylindre numéro 2, parce que parfois, ce 3 cylindres devient un 2 cylindres. Alors vous allez me dire, mais jusqu'où ça va aller? Plus de cylindre du tout? Bah oui. Je vous assure, c'est parfaitement insensible. On ne sait pas si on est en bicylindre
indolore
ou en 3 cylindres. Ce qui permet de maintenir les consommations à un niveau raisonnable. Alors, le constructeur dit 4 litres 2. Franchement, pour arriver à 4 litres 2, ça me paraît pas possible. Moi, je dis, c'est entre 5 litres 5 et 6 litres qu'on roule gentiment. Ce qui est déjà pas mal pour un véhicule de cette puissance et de ce gabarit. Alors ici, je l'ai malheureusement dans sa version la plus sportive, qui est la finition ST-Line.
Alors, la plus douloureuse aussi,
ouais,
j'imagine.
Alors, déjà, c'est une vraie GTI en termes de comportement, franchement.
Une vraie voiture de sport.
Ah mais c'est un truc de dingue. Le châssis, il est vif, c'est précis. Pour moi, c'est la référence en matière de tenue de route dans la catégorie. C'est mieux qu'un Peugeot 2008. Alors le hic, et qui achète en plus un SUV pour rouler sportivement? Personne. Le hic, c'est qu'il y a des grosses roues, il y a du 215 50R18, il y a un anti-roulis musclé et il y a un amortissement plutôt ferme. Donc en matière de suspension, franchement, ça tape un peu. C'est dommage. Alors, il vaudra mieux, sans doute, plutôt que de prendre cette version ST-Line, opter pour une finition titanium, et peut-être même avec le moteur le moins cher, parce que celle-là, ça se paye un peu, 26 300 euros, alors que la 125 chevaux titanium démarre à 23 100 euros. Donc, c'est rare que je vous dise ça, mais n'achetez pas la version que j'ai essayée, prenez plutôt celle qui va être plus confortable, avec le moteur un peu moins puissant, qui sera largement suffisant. Autrement, c'est une voiture sexy.
On a des ailes là-dessus, sur de l'hybride comme ça?
Non, rien du tout.
Jean-Luc, il est bientôt 9h. On va revenir après la météo et les infos pour notre dernière partie de ce week-end des experts auto. On parlera de ce système de désinfection flash des voitures par ultraviolet, bien pratique en ces temps d'épidémie. Et puis bien sûr, vos questions, notre question pas si bête aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que le grade d'une huile tient? Qu'est-ce qui a changé dans le comportement d'achat des automobilistes avec cette épidémie de Covid-19? On en parlera avec notre invité. 32-16, la météo, les infos, et on est de retour. À tout de suite.
RMC jusqu'à 10h. Votre auto.